1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
SLP, salut les PD, bonsoir, bonjour, amis auditeurs et chers amis animateurs.
Et bonjour Philippe.
Salut Philippe.
Comment ça va?
Ça va bien.
Vous avez passé une bonne semaine?
Super bonne, et toi?
Ouais, génial. Et toi Ariane?
Moi je commence à stresser.
Pourquoi? Pourquoi tu stresses Ariane?
Parce que je suis en expo le mois prochain, tout ça.
Ah ouais?
Ah...
Tu fais face à une petite
de
pub, c'est ça?
La semaine prochaine, je ferai ma pub.
D'accord, ok.
Bon, très bien. On va parler de quoi alors, Philippe?
J'avais dévoilé un petit peu le truc la semaine dernière. On va parler mœurs.
Non, mais je suis content. On va... Non, mais ça change, quoi, des sujets économiques, travail, machin. À la fin, on a failli se suicider. Et là, enfin, on va parler des putes, quoi.
Entre autres, mais pas que. Oui, donc crise financière, ça a été la première émission de ce cycle révolutionnaire. Après, on a parlé emploi, rapport au travail. C'est vrai qu'il y a du boulot là-dessus.
Du boulot dans le travail.
Il y a du boulot dans le travail, mais il n'y a pas que là qu'il y a du boulot. Parce que au niveau mœurs, il y a des trucs un peu flippants et inquiétants aussi, des petits mouvements réactionnaires, même du côté de la gauche. Qu'en penses-tu, Ariane?
Voilà ce que j'en pense. J'ai dit un peu plus tôt que le problème, c'était voilà, quand tu cherchais de l'information, quelles étaient les données qui étaient le plus facilement accessibles. Et par exemple, en effet, cette volonté de réaffirmer la position abolitionniste de la France, pour moi, c'est une réussite de communication d'oser le féminisme.
Et c'est un peu flippant comme réussite, non?
Ce qui est flippant et ce qui moi me fait vraiment flipper, c'est que tout ça vient de la gauche et que c'est et qu'on est en plein dans un retour de la bien-pensance de gauche, entre autres au PS qui est vraiment parcouru par le courant à la tête duquel on trouve Sylviana Gazinski, qui est vraiment un courant complètement bien-pensant, bien tout carré, bien tout propre, bien en faveur des gens et tout ça, et qui en fait est là pour complètement nous mettre dans une cage.
C'est réactionnaire au possible. On va laisser la parole très très brièvement à Christine, une de nos...
C'est pas elle qui parle.
Oh, ouais.
C'est pas elle qui parle.
C'est pas elle qui parle.
Non.
Moi je croyais que c'était elle.
Mais non,
je vous ai pas menti. Son nom est cité.
D'accord. On écoute et on en parle après. Bon. C'est très court et c'est très bon. C'est ça que tu as dit.
J'aime bien le début surtout.
D'accord.
La prostitution est peut-être le plus vieux métier du monde, mais en France, on veut faire comme si ça n'existait pas. Hypocrisie franchouillarde oblige, la loi n'interdit pas de se prostituer, elle interdit le proxénétisme. Ce qui empêche donc toute forme organisée de prostitution. Et depuis les lois sur la sécurité intérieure mises en place en 2003 par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, le nouveau délit dit de racolage passif condamne les prostituées à la clandestinité. Du coup, relégués dans des endroits isolés, prostitution rime avec insécurité et conditions sanitaires douteuses. Face à tant de misère, Christine Boutin, oui, Christine Boutin, présidente du Parti démocrate, a déclaré le mois dernier qu'il fallait d'urgence rouvrir les maisons closes. Le bordel, une solution charitable? Pas sûr, Madame Boutin a changé d'avis une semaine plus tard. Tolérée en Belgique, en Espagne, en Angleterre, la maison close est tout à fait légale en Allemagne, aux Pays-Bas, en Grèce et en Suisse.
Voilà, donc ça c'était un peu après les lois sur le racolage passif. C'est un bilan qui avait été fait pour introduire un débat dans une émission qui s'appelait « Questions de génération ». Et donc derrière, il y avait en plateau maîtresse Gilda et Sonia qui ont fait pas mal parler. On les a pas mal vus aussi dans d'autres émissions, même des documentaires, etc.
Mais ça reste d'actualité avec les nouvelles lois qui viennent de... Enfin, qui... c'est de l'Assemblée.
C'est une pétition de principe.
Ouais,
hein.
Mais il y a un projet qui a été déposé.
Vous parlez de quoi, là ?
Sur la pénalisation du client.
Ouais.
Déjà, il y a un premier truc qui est acté, c'est le vote de l'Assemblée nationale, comme quoi la France
est abolitionniste.
Ça veut dire qu'on veut qu'il n'y ait plus de prostitution, que ça n'existe plus.
Voilà.
Et donc, il y a « est dans l'air ». Et soutenu par la gauche, parce que c'est un projet de loi qui est déposé par un député de droite et une députée de gauche.
Rapporteur sur le...
Ouais, et voilà, qui vise donc à pénaliser le client. Voilà.
En se basant sur les expériences nordiques qui, d'après donc, les gens qui communiquent là-dessus, seraient extrêmement positives, alors que d'autres regards disent que ça renvoie aux marges. Les gens qui sont déjà dans la clandestinité traitent d'êtres humains, etc. Que ce soit un peu plus ou un peu moins interdit,
ça change pas grand chose. Disons que
si ça peut rendre encore plus violent, quoi. Ouais, ça met encore plus la pression. Et est-ce que c'est vrai?
Alors, disons que à ce sujet, moi, la prostitution doit être encadrée, ça on n'en doute pas, mais alors de là à la criminaliser, effectivement, c'est une autre histoire. Moi, j'aimerais que.
Ça sera toujours permis. C'est ça où est l'hypocrisie, c'est-à-dire il sera toujours permis d'être prostituée. Par contre, tu n'auras plus le droit d'avoir des clients.
Oui, ben alors, c'est un non-sens complet.
Tu vends des bananes, mais personne n'a le droit de les acheter.
Ouais, c'est ça. Si on donnait ou on redonnait la parole à quelqu'un que j'ai redécouvert, c'est Griselidis Réal. Donc Griselidis Réal, en fait, elle est suisse. Elle est passionnante à écouter, à voir. Et en fait, à un moment dans sa vie, elle s'est prostituée et elle le dit très très ouvertement. Elle en parle avec beaucoup d'humanité. Oui, Ghislain ?
Enfin, un moment qui a duré 30 ans.
Oui, un moment qui a duré... Enfin, oui. Elle a commencé à le faire dans les années 70. Elle explique très, très précisément comment elle en est arrivée là. Donc, il y a plein de choses qu'on peut voir, qu'on peut trouver sur le net, des interviews, des reportages d'elle. Mais c'est quelqu'un qui a écrit aussi. Donc, on peut trouver ses ouvrages. Ils ont été réédités il n'y a pas très, très longtemps. Moi, je vous propose qu'on l'écoute. C'est extrait d'une interview qui date de... Quelle année ? Je ne me souviens plus.
2002.
Voilà, où elle revient un petit peu sur son parcours et elle évoque effectivement son expérience de la prostitution.
Et ensuite, ce qui est arrivé, c'est que la révolution des prostituées s'est déclenchée à Paris en 75.
Ouais. Et vous y étiez ?
Moi, j'y ai participé, j'ai plus jamais quitté la lutte. Et alors à ce moment-là, je me suis remise sur les trottoirs parce qu'il fallait de l'argent, du temps, de la liberté. Et c'est là qu'on en trouve le plus, en tout cas moi. Et je devais continuer quand même à entretenir mes enfants. Donc, il fallait de l'argent. Et à ce moment-là, pour être dans une révolution, par exemple, vous êtes ouvrier, vous n'êtes pas du côté des patrons, fatalement. Donc moi, je voulais être du côté des prostituées, je voulais pratiquer la prostitution et pouvoir ensuite les défendre en toute connaissance de cause, sans tricher, sans profiter d'aucune façon. Et voyez-vous, j'ai ensuite arrêté la prostitution à la fin de l'année 95. Alors, en tout, j'ai fait 30 ans. En comptant les arrêts, les reprises, en tout, ça fait 30 ans de pratique. Donc, j'estime que je suis toujours prostituée et que je connais bien ce métier. Je connais bien les problèmes des hommes qui venaient nous trouver, qui avaient tellement besoin de nous que quelquefois on nous suppliait au téléphone, des hommes qui avaient eu des échecs amoureux ou des pannes sexuelles ou autres et qui étaient complètement solitaires ou veufs ou divorcés, qui étaient souvent même au bord du suicide. On en a sauvé du suicide. Alors moi, je n'ai jamais arrêté de me battre avec d'autres pour faire reconnaître ces vérités-là qui sont humaines et qui ne sont pas dans les clichés habituels.
Non, en effet, vous nous vendez la prostitution quasiment comme une œuvre sociale.
Pour moi, Je l'ai dit et redit dans des congrès, même je l'ai dit en allemand, en anglais, en français. J'ai dit, c'est un art, c'est un humanisme et une science, à condition d'être pratiqué volontairement et dans de bonnes conditions. Voilà. C'est tout. Et on est contre la prostitution forcée, évidemment plus que contre la prostitution des enfants. Tout ça, c'est une horreur qui ne devrait pas exister. Et les femmes qui se font piéger dans des réseaux, qui sont achetées, vendues, massacrées, mutilées, tuées, enfin bref, exploitées. Tout ça, on n'en veut pas. Nous, on veut que ça soit vraiment une pratique qui relève d'un libre choix et qui soit pratiquée avec conscience, avec humanité, avec intelligence, avec imagination aussi, avec beaucoup de feeling humain. Et ça, ça s'apprend tous les jours. Voyez-vous, c'est une chose qu'on ne peut pas inventer. Vous apprenez sur le tas. Mmh. Chaque homme pose un problème différent. Moi, je me mettais dans la peau des autres. Je disais, voilà, pourquoi cet homme est venu me trouver? Pourquoi il est triste? Pourquoi il a besoin de moi? Pourquoi il est gay? Pourquoi il rigole? Pourquoi, dans le fond, il n'est pas si gay que ça? Et qui cache peut-être une souffrance, et tout à coup, il va me la poser devant moi parce qu'il a confiance. Voyez-vous, tout ça, ce sont des rapports humains bouleversants, pas évidents et qui n'arrivent pas tous les jours à tout le monde.
Vous argumentez professionnellement. Quand on fait un métier, on le fait bien.
Voilà.
C'est très moral ce que vous nous dites là.
Vous pouvez être dentiste, chirurgien, vous pouvez être garagiste, peu importe, ouvrier. Si vous faites bien votre boulot, avec, en toute conscience, avec du cœur à l'ouvrage, eh bien, c'est du bon travail. Et si vous le faites mal, en tout cas, en tant que prostituée, vous ne gardez pas beaucoup de clients. Hein.
Christine, Sylviane, si vous nous écoutez.
c'est vraiment un personnage incroyable.
Ouais.
Tu nous avais montré aussi une autre interview d'elle des années 70,
oui.
qui sentait la légèreté, la joie de vivre, quelque chose de libre, d'une liberté incroyable.
Alors, c'est libre, c'est joyeux, ces témoignages, et en même temps, ça élude pas toutes les difficultés auxquelles elle a été confrontée au cours de sa vie, mais c'est toujours empreint d'une grande humanité, grande et parfois terrible humanité, et c'est important en fait d'entendre ce genre de discours aujourd'hui, parce que voilà, c'est avant tout humain, et c'est quelque chose qu'on oublie quand elle parle de ses clients. C'est extrêmement émouvant, c'est très fort comme témoignage.
C'est très fort, et déjà c'est très fort d'entendre une prostituée parler, parce qu'on n'en entend pas beaucoup, c'est pas les gens qu'on met en avant dans les médias.
Ou alors on ne met pas en avant une personne qui a une telle élaboration,
oui,
qui a intellectualisé
sûr.
Les choses et qui en parle avec un détachement, en même temps un vécu très fort, quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la sensation, du lien à l'autre, extrêmement sensible, et en même temps où on est, il y a de la théorisation.
C'est ça, elle a réfléchi. Ouais.
Et elle en parle, je ne sais pas si vous avez frappé, mais elle en parle comme d'un travail.
Oui.
C'est-à-dire, il y a tout, quoi. Il y a les luttes contre. Enfin, il y a les luttes sociales, il y a le rapport au travail bien fait, au savoir-faire, enfin, tu vois, il y a à l'apprentissage, enfin, tu vois, c'est vraiment un boulot, c'est un travail, quoi. C'est ça qui est.
Cohérent.
Oui, et puis surtout qui est tellement, pour moi, plus dans la réalité que le discours qu'on veut bien nous faire entendre, le discours abolitionniste qu'on veut bien nous faire entendre.
Qui est un discours complètement extérieur, hein, en fait, alors qu'elle parle de ce qu'elle connaît très très bien, quoi.
Ben, c'est ce qu'on disait par rapport dans l'émission sur le travail, c'est-à-dire que dans le management, c'est-à-dire que ce sont des gens qui pensent avoir mieux que les gens qui font le travail, comment ils doivent le faire. Voilà, et ce qu'est leur travail.
Qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs ? Pas seulement comment ils doivent le faire, mais qu'est-ce qu'ils font ? C'est. Voilà.
Bon, pour enchaîner, je vous propose une partouze pyramidale. Ça vous va ?
Moi, je vote pour.
C'est parti. Fire, fire, fire. All the lovers
you, I want to move. Even if it throws you to the fire, 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 fire.
Bah, tout le monde aura reconnu Kylie.
Bah, alors là, franchement, hein, sinon c'est 10 pompes.
J'arrive pas à
bon,
me faire 10.
Il faut recommander son CD-DVD live là, qui vient de sortir. C'est un sommet de kitsch généreux mais assumé. Alors, franchement, moi je vous le conseille, c'est un super bon moment. Vous n'avez rien à dire.
Bah, tu sais, moi le kitsch.
Moi j'adore le kitsch.
Franchement, dessus. Par Kylie, je vous le conseille très très fortement.
On enchaîne sur une autre forme de prostitution ?
Oui.
Ah là là,
reconnue par la justice.
Ouais, mais attends, heureusement qu'on a parlé l'année dernière un petit peu du travail de Virginie Despentes, parce que sinon c'est incompréhensible d'articuler prostitution et abstinence dans le couple, quoi.
Donc on écoute le son et puis on en parle après,
voilà.
C'est ça ?
Ouais.
Fais-moi l'amour.
Non, je ne crois pas, non.
Pourquoi ?
Pas envie.
Attention Jean, au cinéma une réflexion comme ça, ça passe, mais dans la vie elle peut te coûter très cher. En mai dernier, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné un homme à 10 000 euros de dommages et intérêts à sa femme, celle-ci lui reprochant d'avoir manqué à ses devoirs conjugaux pendant plusieurs années. Et le sexe, dans un couple, c'est sacré.
Le droit ne le prévoit pas expressément. Il ressort des dispositions du Code civil, effectivement, qu'il y a une communauté de vie, et au sein de cette communauté de vie, il y a forcément une communauté de lit. Et en réalité, si un tel exemple est très rare pour être souligné, il y a des cas où le sexe est saisi par le droit au sein, enfin, à l'intérieur du mariage.
Infidèle, non-vierge ou même impuissant, garde à vous, les juges ne laisseront rien passer. Des mariages ont même déjà été annulés sur ces motifs. Mais soyons honnêtes, le sexe est important, voire essentiel dans un couple. Et ne pas se faire désirer ni toucher pendant des années a dû blesser cette dame. Le vrai problème, c'est surtout les 10 000 euros qu'elle a touchés.
Si la justice quantifie, là, parce qu'elle a eu une approche sur la quantité, vous voyez, mais on peut imaginer aussi qu'elle a une approche sur la qualité. Pourquoi pas, on peut tout imaginer. Et quelle est la position du juge par rapport à ça? Quelle est la formation du juge par rapport à ça?
Sachez-le, votre vie intime peut être décortiquée par la justice. Mais rassurez-vous, messieurs, s'il y a un droit d'obtenir des relations sexuelles consenties, bien sûr, pour l'instant, aucune obligation de satisfaire la partenaire. Mais qui sait, peut-être, un jour...
Des questions bien délicates, n'est-ce pas?
Ça fait du précédent. En plus, donc, on entend là dans le son, ça date donc du mois de mai 2011, la décision. Et ça a commencé à faire parler beaucoup plus tard. Donc,
comment ça a commencé à faire parler beaucoup plus tard?
C'est-à-dire que moi, j'en ai entendu parler à l'automne. Et puis, il y a eu, fin de l'automne, début de l'hiver 2011, donc... Un article aussi de notre amie de l'association Mixité, Maria Candéa, ce que ça signifiait cette décision de justice, et donc oui, une forme de tarification quoi, d'une prostitution conjugale.
Mmh. Bah, au moins comme ça, les choses sont claires, si tu veux. Voilà, le mariage, c'est une forme de prostitution, de proxénétisme.
De contrat, ouais.
Bah voilà, quoi.
Mais ce qui est rigolo, c'est que pour une fois, c'est monsieur qui ne s'est pas acquitté de... Mais ça pourrait donner des idées, c'est-à-dire que les messieurs qui en ont marre que leur femme se refuse...
Ça va nécessairement donner des idées, à mon
avis. Non, mais c'est hyper grave, quoi. Ouais.
Mais en tout cas, moi, t'imagines, la scène, si le juge, il veut savoir s'ils le font bien ou pas.
Ah oui, si tu passes au qualitatif,
tu vois,
ouais.
T'imagines, ça serait trop drôle dans les tribunaux. Maintenant, comme c'est public, t'imagines un peu.
Je trouve pas ça très drôle, en fait.
Non, c'est pas drôle du tout, mais ça rejoint tout à fait ce dont on parlait au début, c'est-à-dire que le politique veut encadrer ce qui se passe dans notre lit.
Ne mélange pas justice et politique, hein, séparation des pouvoirs. Hein.
Les autorités,
depuis quand ils sont séparés, les pouvoirs? Je te rappelle qu'on est sous Sarkozy.
Bon, si on donnait Oui, Ghislain, vas-y, finis, avant qu'on donne la parole à Elisabeth.
Vas-y, donnons la parole à Zaza.
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, Zaza ? C'est toi qui as préparé le son.
Ben, en fait, voilà. Depuis le début de cette émission...
Je croyais que tu allais dire partout.
Non, j'allais dire cette partie, mais en fait, non, de cette... de cette émission, on dit qu'en fait... La gauche est quand même hyper réac et est parcourue par des courants qui sont complètement réac. Ouais, mais il n'y a pas que...
Pas toute la gauche, mais voilà, une partie de la gauche.
Voilà, il n'y a pas que... Oui, mais les courants dominants actuellement sont les courants bien-pensants, réactionnaires.
Malheureusement.
Alors qu'il y a des courants qui le sont beaucoup moins, qui sont beaucoup plus iconoclastes, comme... Et il y a quelqu'un qui est, peut-être pas la tête de film, en tout cas presque, qui s'appelle Elisabeth Badinter.
Ouais, c'est dingue que tu dises que ce soit des courants iconoclastes, parce que enfin, malheureusement, effectivement, ça l'est devenu. Quoi. C'est ça qui est terrible. Bah,
c'est des courants à contre-courant, c'est-à-dire, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'Elisabeth Badinter, tu as l'impression que depuis le début qu'elle écrit, elle écrit des trucs qui sont à contre-courant total de l'ère du temps. Voilà, son truc sur l'instinct maternel, ça date d'il y a 30 ans et c'était complètement à contre-courant. Actuellement, ce qu'elle dit sur la maternité et tout ça, c'est pareil, c'est complètement à contre-courant.
Et donc le son qu'on va écouter, là, c'est...
On va dire, ça reprend en fait, c'est une interview qui a été faite à Sciences Po et qui l'interroge sur le féminisme, sur le genre, sur la maternité, sur ce genre de choses-là en fait. Ça reprend un petit peu, en gros, toutes ces pensées.
On l'écoute.
Oh, bah ouais.
La différence radicale entre hommes et femmes va aboutir comme d'habitude, aboutit comme toujours, on pourrait dire, à des rôles déterminés pour l'un et pour l'autre. Et puisque la femme est potentiellement mère, sinon mère en action, il est bien clair que ça la renverra une fois pour toutes à la maison, dans le soin des enfants, le soin des plus faibles, le soin des vieillards, les tâches domestiques. Je ne suis peut-être pas une rare fidèle de Simone de Beauvoir, je suis une parmi d'autres. Mais ce qui m'attache considérablement à sa pensée, à son message, c'est qu'elle a été, je crois, vraiment l'une des premières à montrer, voire à démontrer, que la féminité est éminemment culturelle. À mon avis, il fait toujours fausse route en ce qui concerne les théoriciennes du féminisme. C'est-à-dire que le féminisme différentialiste, naturaliste, maternaliste est le féminisme dominant aujourd'hui. Mais il ne faut pas confondre les théoriciennes qui sont dans leurs universités ou qui sont à proprement parler les intellectuels du féminisme avec, je dirais, les femmes en général qui ont d'autres chats à fouetter que la théorie féministe, mais qui ont un point de vue féministe sur leur vie, etc. À mes yeux, l'injustice majeure qui conditionne toutes les autres, c'est-à-dire toutes les autres inégalités entre hommes et femmes, c'est le fait prouvé partout dans le monde, mais en Europe en particulier, que les femmes assument 80% des tâches familiales, parentales, ménagères, et donc plus elles ont d'enfants, et plus le travail est lourd. Donc si elles assument 80% de ces tâches, je dirais, privées, elles courent avec une tonne sur les épaules dans le monde professionnel. Parce que il faut en finir avec les utopies, les préjugés, les stéréotypes. Je pense que on ne naît pas femme, on le devient, mais on ne naît pas homme non plus, on le devient. Que c'est un long chemin, et pour les unes et pour les autres, et qu'il faut qu'on comprenne que ça n'est pas parce qu'on a telle conformité du corps et des organes génitaux qu'on va acquérir une identité qui est toujours culturelle. Je pense qu'il est très important que les jeunes gens soient introduits à cette problématique. Les êtres humains sont tous différents. Et je pense que un des grands apports de Freud, mais aussi de Beauvoir, c'est de montrer qu'on est tous porteurs d'une certaine dose qui nous est propre de féminité et de virilité. Et donc, certains d'entre elles seront plus féminines et adoreront rester à la maison et à élever 8 enfants et à jouer pleinement ce rôle de donneuse d'amour, etc. Puis il y en a d'autres qui ne voudront pas d'enfants. Et puis ça ne les intéresse pas. Puis il y en a d'autres qui voudront vivre des amours homosexuels. Et tout ça est normal. Et je pense que pendant si longtemps, les préjugés ont été si lourds que finalement, les générations qui arrivent sont aussi la proie de ces préjugés. Et donc c'est effectivement aux enseignants, aux professeurs de déconstruire tout ça.
Bon, voilà, c'était un son qui reprend en gros certaines de ses grandes idées. C'est peut-être pas les plus percutants qu'il y avait, mais c'était en tout cas celui qui était le plus complet. Il faut écouter ce qu'elle dit sur la maternité,
oui.
Où elle renvoie au côté mammifère des femmes, justement, qui souhaitent allaiter, etc., en disant que c'est un immense retour en arrière et qu'il faut absolument lutter contre cette pression sociale qui veut qu'il faut absolument allaiter pour être une bonne mère.
En tous les cas, il ne faut pas que ce soit un impératif.
C'est ce qu'elle dit, voilà. C'est ce qu'elle dit ici aussi, quoi. Elle dit, c'est un des choix possibles. Il ne faut pas que ce soit le seul et l'unique choix, parce que c'est quelque chose qui renvoie les femmes, voilà, très très loin derrière. Et du coup, elle se frite avec les écolos, et c'est super drôle.
Bon, encore une fois, on n'aura pas fait le tour de toute la question. Évidemment, on a ouvert réouvert quelques portes, parce que, mine de rien, voilà, écouter Badinter comme ça en fin, en fin d'émission, il y a quelques vérités qui ont besoin d'être réaffirmées. Non,
en tout cas, c'est intéressant d'avoir quelqu'un de ce niveau-là qui qui a cette parole publique, qui a ce discours-là, quoi, sur le genre, sur le féminisme. Et
oui,
tout
aussi
ça,
de cette génération-là, parce que c'est quelque chose qu'on attend plus, c'est génial. Quoi.
Et on l'entend plus si fréquemment, comme tu dis.
Donc,
c'est
je voudrais parler d'une autre signature que j'aime beaucoup, c'est Nancy Houston, qu'on retrouve de temps en temps dans Le Monde. Le dernier article que j'ai attrapé d'elle, c'était en mars 2011, il me semble, et c'était « Abat la virginité ». C'était génial. Et quelques années avant, il y avait eu quelque chose sur « On ne naît pas homme, on le devient ». Et c'était vraiment... j'aime beaucoup. C'est très percutant, justement. Enfin, voilà. Ça fait plaisir.
Voilà, c'est la fin. Troisième émission. Terminée.
Au revoir.